France Inter, il est très précisément 13h. Il est donc l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Vote blanc ou abstention au second tour de l'élection présidentielle pour les deux tiers des soutiens de Jean-Luc Mélenchon et sympathisants de la France insoumise. Selon les résultats de la consultation interne rendue publique ce matin, le vote pour Emmanuel Macron obtient 33,4% des voix. Une consultation qui n'est pas une consigne donnée à qui que ce soit, précise la France insoumise. À Rome, le pape François parle d'une PAC de guerre lors de cette traditionnelle bénédiction. Urbi et Torbi, le pape appelle ce matin ceux qui ont la responsabilité des nations à entendre le cri de paix des gens. Nous serons à Rome dans un instant. Dans l'actualité, l'ultimatum de Moscou au dernier défenseur de Mariupol. Les derniers combattants ukrainiens de cette ville portuaire avaient jusqu'à midi pour déposer les armes et se rendre. La situation à Mariupol est inhumaine, indique le président Zelensky. Invité de ce journal, Olivier Weber, écrivain, grand reporter, après 3 semaines passées en Ukraine. Et puis, le Paris-Roubaix, 119e édition, et déjà des coureurs piégés par les pavés de cette classique cycliste. La météo, beau temps partout. Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal.
France Inter.
Un dimanche de Pâques bien sombre et une bénédiction urbi et orbi au Vatican par le pape François, marqué par les souffrances et les atrocités de la guerre en Ukraine. Ce matin à Rome, le pape François a appelé à entendre le cri de la paix en cette Pâques de guerre après avoir condamné hier, lors de la veillée pascale, la cruauté de ce conflit. Sur place à Rome, on retrouve notre correspondant Bruce de Galzin et devant 100 000 fidèles, place Saint-Pierre, dans son message de Pâques, le pape a parlé de ses préoccupations pour l'Ukraine et la guerre mondiale.
Pour le pape, nos yeux sont aussi incrédules devant la résurrection de Jésus que devant cette Pâque de guerre, comme il la qualifie. Lui qui ne cesse de mettre en garde contre la troisième guerre mondiale par morceaux n'en revient toujours pas que la logique de guerre l'emporte sur la logique de paix. Devant des dizaines de milliers de pèlerins sur une place inondée de soleil, François lance un appel solennel pour l'Ukraine martyrisée.
Si scelga la pace.
Choisissons la paix, arrêtons de montrer nos muscles pendant que les gens souffrent. S'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à réclamer la paix depuis nos balcons et dans les rues. Que les responsables des nations écoutent le cri de paix des peuples. Qu'ils entendent cette question inquiétante posée par des scientifiques il y a près de 70 ans. Allons-nous mettre fin à l'humanité ou l'humanité renoncera-t-elle à la guerre ?
Cette phrase du manifeste de Russell à Einstein en 1955 est un appel au désarmement nucléaire et à la recherche de solutions pacifiques. François a consacré les deux tiers de son message à cette guerre qu'il craint mondiale avant d'énumérer les conflits au Proche-Orient, au Yémen oublié de tous, au Myanmar, en Afrique, notamment en RDC, et avant de s'inquiéter une fois encore pour les réfugiés de chaque guerre. Sur la place Saint-Pierre à Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et en Ukraine aujourd'hui, la tension se porte sur la ville de Mariupol, ville stratégique sur la mer d'Azov, assiégée et bombardée par les forces russes depuis 53 jours. Un ultimatum a été lancé par Moscou aux derniers combattants ukrainiens retranchés dans la ville pour qu'ils déposent les armes et qu'ils évacuent le port. Ultimatum fixé à midi. Sur place en Ukraine, on retrouve nos envoyés spéciaux Camille Magnard et Laurent Macchetti. Bonjour Camille.
Bonjour Frédéric.
Alors la situation à Mariupol a été qualifiée d'inhumaine par le président ukrainien Zelensky. Où en est-on de cet ultimatum fixé par les Russes ?
Eh bien, il a expiré cet ultimatum il y a maintenant 1 heure et de ce que l'on en sait, les derniers soldats ukrainiens encerclés par les Russes, terrés dans les souterrains de l'immense usine sidérurgique Azovstal, n'avaient pas du tout reçu pour ordre de rendre les armes. En fait, les autorités ukrainiennes ont tout bonnement ignoré l'ultimatum russe, même pas évoqué dans les déclarations officielles, très peu dans la presse ukrainienne, comme s'il était évident que la reddition n'était même pas une option. Nous vaincrons ou nous mourrons, déclaraient récemment ces combattants pris en tenaille à Mariupol, mais d'autres aussi, dans des vidéos d'adieu envoyées à leur famille, accusaient leur armée ukrainienne de les avoir abandonnés à une mort certaine. Le président Volodymyr Zelensky a tenté hier soir de répondre à ces critiques.
Il n'y a pas eu un seul jour depuis le début du siège de Mariupol où nous n'avons pas cherché une solution militaire ou diplomatique pour sauver ses habitants. Et nous sommes chaque jour en contact avec nos soldats qui défendent Mariupol.
Volodymyr Zelensky qui déclarait hier également que si les derniers soldats ukrainiens à Mariupol étaient massacrés par les les Russes. Alors cela porterait un coup d'arrêt aux négociations de paix entre les deux pays. Pour les Russes, cet ultimatum voué à l'échec, on l'a compris, c'est un peu une posture, une manière d'accélérer la chute tant attendue de Mariupol. Mais à Kiev, c'est tout l'inverse. Il s'agit de défendre le port jusqu'au bout pour obliger les Russes à y consacrer des troupes plutôt que de pouvoir les envoyer, ces troupes, dans le Donbass où se prépare, on le sait, la prochaine grande bataille.
Camille Magnard avec Laurent Makhity en direct de Zaporijja en Ukraine. Merci. Et puis les forces russes ont également annoncé avoir bombardé ce matin une nouvelle usine d'armement près de Kiev, mettant à exécution pour le troisième jour consécutif leur menace d'intensifier leur frappe contre la capitale ukrainienne. Le porte-parole du ministère russe de la Défense indique qu'une usine de munitions a été détruite près de la ville de Brovary dans la région de Kiev. Invité de ce journal, Olivier Weber, écrivain et grand reporter tout juste de retour d'Ukraine après 3 semaines de reportage et un livre à paraître, Ukraine, naissance d'une nation européenne aux éditions de l'Aube. Bonjour Olivier Weber.
Bonjour.
Alors on vient d'évoquer à l'instant la situation à Mariupol et les évacuations des civils aujourd'hui qui n'auront pas lieu. Vous avez recueilli beaucoup de témoignages sur Mariupol. Que se passe-t-il dans cette ville stratégique sur la mer d'Azov?
C'est une ville évidemment totalement assiégée, il n'y a plus que les militaires ukrainiens et des volontaires qui se battent dans une usine qui est sur le port. Et évidemment, il n'y a pratiquement aucune possibilité de victoire ou d'évacuation de ces militaires. Les civils, eux, essayent de sortir. Il n'y a pratiquement pas de corridors humanitaires. Le maire de la ville voisine de Mélitopol me disait « Mais nos bus d'évacuation qui étaient prévus pour les administrés, pour les citoyens de la région de Mélitopol et de Mariupol ont été volés il y a 3 jours ». Par les Russes eux-mêmes. Donc c'est pour vous donner une idée de combien il est compliqué de procéder à l'évacuation des civils. Mariupol, eh bien, il reste encore des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur. Il y a des blessés qui ne sont pas soignés. Et donc, évidemment, il y a urgence. C'est pour ça, d'ailleurs, que le président Zelensky a demandé à ce qu'il y ait un accord pour au moins la reddition des soldats qui sont encerclés encore aujourd'hui.
Olivier Weber, le président Zelensky parle d'une situation inhumaine à Mariupol.
Oui, absolument, parce que évidemment il y a l'affrontement entre militaires d'une part, entre deux armées, l'armée ukrainienne et l'armée russe, et deuxièmement il y a les civils qui sont pris en otage. Et vous savez, moi j'ai passé 3 semaines sur le terrain, j'ai vu plusieurs lignes de front et j'ai surtout interrogé des déplacés de l'intérieur, comme on les appelle, ou des réfugiés qui sont sortis vers la Pologne. Et il y a les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui aujourd'hui sont avérés au niveau pénal, au niveau juridique, et après le fait que les civils soient visés délibérément. Encore à Kharkiv, où je me trouvais il y a quelques jours, un centre commercial était visé et touché par un missile russe. Donc, bien sûr, il y a une sorte de propagande du côté russe qui justifie, entre guillemets, pour les militaires russes, d'aller pratiquer une vraie stratégie de la terreur.
Alors, vous étiez, vous l'avez dit, à Kharkiv et à Odessa notamment, et vous avez rencontré la résistance ukrainienne. Ils vous disent, on va se battre jusqu'au bout, mais on n'est pas des héros, on se bat normalement.
Ce qui m'a frappé, c'est d'une part, évidemment, ce degré de résistance et de combativité de l'armée ou des forces ukrainiennes, non seulement l'armée régulière, mais aussi les supplétifs, la garde nationale et la défense territoriale. Ils vont se battre jusqu'au bout. Et puis, deuxièmement, cette organisation de l'arrière. Vous savez, comme on disait en 14-18, l'arrière tiendra. Et là, j'ai vu des ingénieurs, des chômeurs, des paysannes, des ouvrières, des jeunes, des anciens se donner la main pour aider les autres. Et c'est remarquablement organisé. Et en même temps, ce que me disait cet officier supérieur à Kiev de l'armée, donc il me disait, mais vous savez, en même temps, on nous traite comme des héros, mais on se bat et on va se battre comme une armée régulière. La chance qu'on a, entre guillemets, c'est que l'armée russe ne se bat pas très bien. Donc les Ukrainiens continuent à demander des armes et en même temps, il y a ce degré de résistance, ce degré d'opiniâtreté qui est formidable, qu'il soit à la fois sur le terrain militaire, sur les lignes de front que j'ai pu fréquenter, et puis deuxièmement, avec ces civils qui se battent à leur manière, avec un effort de guerre qui est à la fois l'organisation, qui est la logistique, de l'aide humanitaire. Et puis, ce que me disait hier encore un homme qui a tout perdu à côté de Boutcha, dans le village d'Andreevka, il me dit « Nous, on a nos bras, donc on va se remettre au travail pour reconstruire ce pays et continuer donc à suppléer, à aider nos militaires sur la ligne de front. »
Après 53 jours de guerre, y a-t-il une raison d'espérer, aussi mince soit-elle, dans cette guerre ?
Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de logique au niveau du commandement de l'armée russe. On sait très bien que c'est Poutine donc qui prend tous les ordres d'une manière relativement irrationnelle, même si on peut penser qu'il y a quand même une sorte de conduite. Mais devant les points qui sont marqués donc par l'armée ukrainienne, y compris avec ce bâtiment de la marine russe qui a été coulé. Évidemment, après, les réponses sont des réponses de type irrationnel, en visant des civils, en brandissant à nouveau la menace nucléaire et des armes tactiques, etc. Donc, ce qu'on sait, c'est que les Ukrainiens vont continuer à se battre. Cela va dépendre, deuxièmement, de la capacité des Européens, des pays occidentaux à envoyer de nouvelles armes sur le terrain, des armes opérationnelles très rapidement, c'est-à-dire dont peuvent se servir très vite les militaires ukrainiens s'ils sont formés pour cela en quelques jours. Et puis, deuxièmement, de l'autre côté, bien sûr, la stratégie russe. On sait qu'elle se replie plutôt sur le Donbass. Les affrontements vont être extrêmement durs des deux côtés, côté ukrainien comme côté russe. Mais évidemment, il peut y avoir des mesures de représailles de la part de l'armée russe sur des villes.
Olivier Weber, écrivain et grand reporter à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, interview réalisée un peu avant ce journal.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
L'actualité politique et la campagne présidentielle ce dimanche, avec le résultat de la consultation des soutiens de Jean-Luc Mélenchon en vue du second tour de la présidentielle dimanche prochain, et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon ainsi que les sympathisants de la France insoumise privilégient le vote blanc au second tour à plus de 37% des voix, suivi du vote pour Emmanuel Macron à 33,4% et l'abstention avec 28,96%. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Une consultation qui n'est pas une consigne donnée à qui que ce soit, précise la France Insoumise.
Oui, alors c'est une position officielle qui arrange en réalité tout le monde. Hein. Désormais, pour faire gros, un tiers blanc, un tiers abstention, un tiers Emmanuel Macron. C'est une manière donc de ne pas donner d'autres consignes que celles que Mélenchon a martelées au soir du premier tour. Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Alors lui-même fera bien ce qu'il veut hein, dans le secret de son isoloir, comme il l'a fait d'ailleurs en 2017, où il est allé voter. Il ne s'est pas abstenu. Alors l'enseignement de cette consultation, en revanche, c'est que pour le peuple de gauche qui a cru à l'Union Populaire, Marine Le Pen n'était pas une option, Emmanuel Macron pas une solution. Son coup de barre à droite avec la réforme des retraites n'est pas éclipsé par sa promesse de mettre en œuvre une planification écologique, résume un élu insoumis. Il reprend nos mots, on l'a bien vu avec la Convention citoyenne sur le climat. Il promet, mais il n'agit pas, disent les insoumis.
Et puis Laurence, concernant maintenant un autre volet des discussions, les discussions avec le Parti Socialiste et la main tendue par le premier secrétaire Olivier Faure pour les législatives, un refus là ce matin de la France Insoumise qui ferme la porte.
Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, qui est très inquiet de l'état du pays, s'est refusé à lancer pour le moment la bataille des législatives, certainement pensée comme un troisième tour social. Et dès le 24 au soir, il devrait y appeler. Alors il a écrit aux responsables de la gauche, du NPA aux communistes et aux écologistes pour les enjoindre à des discussions. L'idée, c'est de partir sous une bannière commune, mais sans relier ses appartenances partisanes. L'Union Populaire qui a été pensée véritablement comme cela. Le Parti Communiste devrait accepter. Fabien Roussel a répondu à Jean-Luc Mélenchon en lui disant qu'il acceptait la main tendue. Les écologistes, pas du tout, ils font la fine bouche. Ils ne sont pas véritablement, pour le coup, véritablement en position de force. Et les socialistes n'ont pas été contactés. Les mots très durs d'Anne Hidalgo ou de Carole Delga, la patronne de la région Occitanie, à l'encontre d'une France insoumise qui serait suspecte d'ambiguïté vis-à-vis de l'extrême droite, et bien tout ça a achevé de rompre les liens.
Laurence Perron, merci. Les professionnels de santé donnent eux une consigne plus claire après les sportifs et les artistes. Dans une tribune publiée ce matin dans le journal du dimanche, 1000 acteurs de la santé appellent à faire barrage à l'extrême droite et à voter pour Emmanuel Macron pour préserver, disent-ils, nos solidarités. Jérôme Marty, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, est signataire de la tribune.
Les valeurs de l'extrême droite ne peuvent pas être les valeurs de la médecine. C'est la base même de notre raisonnement. Vous savez que quand on est médecin, on soigne tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine, quelles que soient les idées politiques. On ne fait pas de différence et on voit bien que dans le programme de Madame Le Pen, cette différence s'installerait. Et ça, c'est insupportable quand on est médecin. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, sur l'aide médicale d'État, que celle-ci veut l'abolir et la remplacer juste par une aide d'urgence, ça veut dire qu'on écarterait du soin des femmes, des hommes, des enfants pendant des années, créant ainsi une perte de chance, créant le développement de maladies. On sait que ces gens, souvent, sont des gens qui sont à bas niveau socio-économique, qui sont en grande demande de soins, et ne pas les soigner équivaudrait, pour nous, à bafouer le serment d'Hippocrate.
Jérôme Marty, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre et au Rassemblement national. Un rapport européen accuse Marine Le Pen et ses proches d'avoir détourné environ 600 000 euros d'argent public lors de leur mandat de députés européens. Un nouveau rapport révélé hier par Mediapart et remis à la justice française. L'avocat de Marine Le Pen, maître Rodolphe Bosselu, s'étonne du timing toujours fort, dit-il, de ces révélations. On écoute également les réactions ce matin de Louis Alliot, le maire RN de Perpignan.
Ça fait maintenant 10 ans qu'on est poursuivi d'une haine tenace par Mediapart. Tout le temps, au moment des élections, sort ce genre de rapport, mais systématiquement, les électeurs remettent les choses à leur place et votent pour nous. J'espère bien qu'on intentera une action en justice pour savoir d'où viennent les fuites et surtout comment est fait l'enquête. J'ai mandaté mon avocat pour qu'on regarde comment c'est possible qu'aujourd'hui, dans des enquêtes comme celle-là, les médias, en tout cas Mediapart, soient mieux informés que nous. Et en ce qui nous concerne, qu'on n'ait pas accès au dossier pour voir très exactement ce qu'on nous reproche.
Louis Alliot sur France Info. En sport, l'événement aujourd'hui, c'est la course cycliste Paris-Roubaix et ses 55 km de pavé. Le départ de cette reine des classiques cyclistes, 119e édition, a été donné ce matin sous un ciel entièrement bleu. Sur la route du Paris-Roubaix, on retrouve Fanny Le Chevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Une édition 2022 qui s'annonce très ouverte. Il y a quand même un favori, Mathieu Van Der Poel, mais les premiers pavés ont déjà bousculé le peloton ce matin.
Et oui, le ciel n'est plus tellement bleu, il est tout marron, plein de poussière, puisqu'on vient d'entrer dans le premier secteur pavé à Trois-Villes. Et vous parliez de Mathieu Van Der Poel, le grand favori de la course. Eh bien, le grand favori est pour l'instant piégé. Il a été pris par le vent, il n'était pas là aux avant-postes. Et résultat, ce qu'on appelle dans le jargon du cyclisme une bordure. Le peloton s'est scindé en deux. Et dans le deuxième groupe figure Mathieu Van Der Poel, l'autre favori, Van Aert, deux Français également qui pouvaient jouer. Pourquoi pas prétendre à la victoire finale Christophe Laporte et Valentin Madouas. Mats Pedersen, le leader de l'équipe Trek, est également piégé. Il compte 1 minute 22 secondes de retard déjà sur le groupe de tête mené par l'équipe Ineos, dans lesquels là aussi il y a du beau monde. Van Baarle, Ghana, côté français, figure dans le premier groupe. Florian Sénéchal, il rêve de remporter lui le nordiste Paris-Roubaix. Également là, Anthony Turgis, qu'on voit régulièrement aux avant-postes. Mais attention, il peut encore se passer beaucoup de choses. 157 km encore à parcourir, 29 secteurs pavés encore pour déterminer et les chutes qui continuent à se faire dans ce Paris-Roubaix.
Fanny Le Chevestrier, merci. On a débuté ce journal à Rome avec le dimanche de Pâques et la bénédiction du pape au Vatican. On va s'intéresser maintenant à un incontournable de Pâques, c'est la chasse aux œufs, l'un des moments privilégiés des enfants et des plus grands après Noël, des chasses aux œufs organisées partout en France. Même si avec le soleil, c'est un temps à ne pas mettre un chocolat dehors, nous dit Steven Goyer. Steven Goyer qui s'est rendu au parc André Citroën à Paris où des milliers d'œufs étaient cachés. Une chasse aux œufs solidaire, cette année, organisée par le Secours Populaire, il y avait plus de 2000 enfants sur les pelouses.
Devinez ce qu'ont trouvé Lia et Jenna, sa petite sœur, dans la pelouse du parc André Citroën.
Des œufs.
Des œufs, forcément, et de toutes les couleurs.
Blanc, vert, rouge.
Un panier bien rempli d'œufs en plastique qu'il faudra ensuite échanger au stand pour avoir de vrais œufs en chocolat. Cette fois, Nawel, la maman, avait prévu de venir tôt ce matin.
On est venu à l'ouverture. Ça fait 2 ans que ça n'avait pas été fait à cause du Covid. Donc là, ça revient et on est content pour les enfants, en fait. En habitant le quartier, franchement, c'est génial. Non, il faut en ramasser un.
Autant laisser un petit peu aux autres aussi.
On bosse un maquillage ?
Entre 2500 et 3000 enfants sont attendus jusqu'à ce soir avec un coup de pouce de la météo.
On croisait les doigts parce qu'il y a une semaine, c'était pas gagné. Et là, franchement, on a un temps magnifique.
Abdelsem Ghazi est secrétaire général du Secours Populaire Paris. Dans le parc, même la chasse aux œufs est encadrée.
Déjà, il faut acheter un permis de chasse qui est de 5 euros. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonds sont reversés sur nos actions internationales et notamment cette année sur l'Ukraine.
Et pour éliminer tout ce chocolat, une multitude d'activités sportives est au programme, du foot, de la course, voire même un peu de danse pour les plus grands.
Voilà, la chasse aux œufs, parc André Citroën et les animations vont durer jusqu'à ce soir 18h et en ce week-end prolongé de Pâques au milieu des vacances scolaires pour les zones A et B. Et avec le soleil, il y a du monde sur la côte atlantique notamment. Exemple au Sable d'Olonne, en Vendée, Céline Loiseau de France Bleu Loire-Océan a rencontré des familles heureuses.
Clairement, on le sent sur l'humeur des gens, tout le monde est souriant, on sent vraiment que le moral va beaucoup mieux et ça fait plaisir.
Carrément, oui, ça, après l'épisode Covid, du coup, c'est vrai que c'est assez plaisant. On a pris les vélos et puis on va se balader, on va faire le tour de Sable d'Olonne, on va visiter un petit peu.
Bon, on a fait péter le short, short et t-shirt, et puis on est limite à retirer le t-shirt, ce qui fait très bon. C'est mieux que l'été parce que justement, ça brûle pas. On décroche bien vite du boulot, là, on est bien. On se mange des petites huîtres avec un petit verre de vin blanc, tout simplement, et puis après, balade sur la plage.
Avec ma soeur, on fait un jeu. Dès qu'il y a une vague, on doit sauter au-dessus et des fois on saute trop tôt, du coup on saute dans la vague.
Elle est pas un peu fraîche ?
Si, quand même.
Voilà la météo, les vacances qui font un bien fou au moral. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Pierre Hameau.
Les hautes pressions nous assurent un très bon ensoleillement cet après-midi dans la plupart des régions. Un bémol tout de même du côté de la côte basque où, comme hier, vous resterez sous la grisaille. Du coup, les températures vont peu évoluer. N'attendez pas plus de 16 degrés entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Prévoyez un peu plus de nébulosité sur la chaîne pyrénéenne, mais aussi vers les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes où l'on attend quelques averses avant la fin de la journée. Les Bretons verront le ciel sans nuages en soirée. Quelques gouttes d'eau se feront sentir par moment. Et puis les températures maximales évolueront entre 18 et 24 degrés. Prévoyez 18 à Nancy comme à Nice, 19 à Dijon, Strasbourg, Besançon et Montpellier, 20 à Lyon et Toulon, 21 à Rennes, Nîmes et Marseille, comptez 22 à Paris et Bourges, 23 à Toulouse et 24 à Bordeaux. Changement de temps demain lundi, prévoyez un ciel nuageux et quelques gouttes d'eau entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie et des pays de la Loire à la Bretagne en passant par la Normandie. Dans les autres régions, vous profiterez encore du soleil. Les températures vont baisser sensiblement pour se rapprocher des normales de saison.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.